Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, les jeux c'est magique.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Ludique, les amis. On est le vendredi 14 février et c'est le jour de la Saint-Valentin. Donc je vous ai prévu un jeu pour deux joueurs. Et puis on retrouvera Morgane juste après pour soirée jeu. Et elle, forcément, sera des jeux à plusieurs, notamment quand on va dans les ludothèques. Voilà, C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer.
Et au menu aujourd'hui, c'est Monumental Duel, un jeu de Matthew Dunstan, édité par Funforge et distribué par Asmodée. Alors dans ce jeu pour deux joueurs, vous allez devoir choisir entre les Égyptiens, les Chinois, mais vous pouvez aussi prendre les Danois hein, si vous voulez. Dans chaque boîte de Monumental, vous avez trois peuples et vous avez un module différent dans chacune des trois boîtes. Oui, il y a trois boîtes. Il y a la boîte exploration, la boîte espionnage et la boîte négoce. Votre but, mener votre civilisation à la victoire en construisant des merveilles et bâtiments, en contrôlant des provinces ou encore en ayant une politique culturelle développée. Au niveau de la mise en place, si vous connaissez Monumental, fini hein, le plateau composé de tuiles, chaque joueur aura son deck de 15 cartes civilisation, il en prendra 9 hein, pour faire une grille de 3 par 3 en respectant l'ordre de pose. Cela représente donc sa cité. Vous prenez également la carte chef de guerre et ambassadeur ainsi que le deck de cartes de politique culturelle. Chaque joueur prend 2 jetons or, entre les joueurs on pose la carte avantage qui n'est orientée vers aucun des joueurs au début et on va préparer la piste développement en révélant les 6 premières cartes triées par R. Voilà, eh bien vous êtes prêts à jouer à Monumental Duel. Mais alors comment on joue? La première chose à faire c'est l'activation de la cité. Pour ce faire, il suffit d'incliner les cartes de votre cité, vous choisissez une ligne et une colonne, si certaines cartes connaissances sont présentes en dessous, et bien vous les inclinez aussi. Toutes les cartes activées vous permettent de récupérer des ressources. Faut savoir que les ressources de production, sciences et militaires doivent être utilisées lors du tour, hein, sinon elles sont perdues. Ensuite, on va effectuer des actions à tour de rôle jusqu'à passer. Alors parmi les actions possibles, acquérir une carte développement ou un bâtiment de base, payer le coût en fonction de la carte, compléter une merveille, il vous faut d'abord l'acquérir en payant son coût de production, développer une politique culturelle de votre civilisation, la première vous coûte un jeton culture, la seconde 2 et ainsi de suite, conquérir une province adverse en payant autant de jetons militaires, accomplir un progrès scientifique en payant 2 sciences, prendre l'avantage, payer en une fois une quantité d'une ressource de base de votre choix pour récupérer cet avantage et votre adversaire devra payer plus. L'avantage vous permet d'utiliser le pouvoir de votre chef de guerre ou encore d'utiliser votre ambassadeur. Alors l'action de celui-ci dépend de la boîte que vous avez. Si c'est la boîte exploration, vous pouvez explorer de nouveaux horizons en payant le coût militaire en fonction de l'air plus le coût militaire. Les explorations vous rapportent un point en fin de partie. Si c'est la boîte espionnage que vous avez, il y a des cartes révolte qui vous feront perdre un point si elles arrivent dans votre cité. Mais si vous jouez votre ambassadeur, vous pouvez aller espionner en lançant des dés qu'il faudra d'abord acquérir, c'est le choix à entraîner. Mais il y a aussi le choix déployé selon le résultat des dés lancés, ça sera pas la même chose. Hein. Pour obtenir l'effet de la carte, il vous faut un 4, un 5 ou un 6. Vous pouvez toujours relancer les dés, mais faut payer. Dans la dernière boîte, c'est la négoce. Votre ambassadeur peut négocier avec une carte ville libre pour obtenir des bâtiments de base. Les villes libres présentes dans votre cité vous rapporteront 2 points en fin de partie. Quand on a à passer, on complète sa cité, la piste de développement et c'est reparti pour un tour. La fin de partie est déclenchée dès qu'il reste 4 cartes dans la piste de développement. On finit la manche et on passe au décompte. Chaque province, connaissance rapporte un point. Chaque merveille et politique culturelle, 2 points. Et vous ajoutez également les points des différents modules selon les boîtes. Alors ce que j'en pense de Monumental Duel, déjà, dur de choisir une boîte. Forcément, on a envie de prendre les 3. Mais bon, s'il fallait en choisir qu'une seule, je partirais sur espionnage. Moi, cette version duel a gardé l'essentiel du jeu avec l'activation de la cité. On a du deck building, du développement, de la gestion de ressources, de la programmation. On fait vraiment plein de choses. On n'a pas le temps de s'ennuyer, mais pour que les parties soient fluides, il faut penser aussi à anticiper. Une chose est sûre, on a une belle profondeur et une très grande rejouabilité avec ses 3 modules de jeu possibles et donc 9 peuples différents. Voilà, ça s'appelle Monumental Duel, c'est sorti chez Funforge, distribué par Asmodée, donc vous avez le choix entre 3 boîtes, hein, la boîte Exploration, Espionnage et Négoce. Et si vous aimez Monumental, ben prenez les 3. Et si vous voulez jouer à plusieurs, ben vous achetez la boîte Monumental, la classique. Voilà, vous savez tout sur Monumental Duel. D'ici quelques instants, on va retrouver Morgane pour Soirée Jeu.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique, mais Soirée Jeu, c'est magique.
Alors si c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, bien sûr... Eh bien, il y a aussi des personnes qui vont être seules et qui vont vouloir trouver du monde pour jouer avec eux. Et du coup, eh bien, Morgane nous a fait une petite sélection. Bonjour Morgane.
Salut.
Ça va bien ?
Oui, toi ?
Très, très bien. Alors aujourd'hui, tu nous as fait une sélection pour plusieurs joueurs.
Voilà.
Une sélection des jeux que tu as joué récemment, hein, c'est ça ?
Oui, c'est des jeux que j'ai joués récemment, mais il y en a quand même un pour deux joueurs.
Ah, il y en a un pour deux joueurs.
Le thème qui est dedans, c'est bon.
Ben c'est bon, on est dans le thème. Eh ben, on commence par lequel alors ?
On va commencer par Alice Garden. Quand on a une envie de printemps, de planter des fleurs dans son jardin, on sait que ça arrive bientôt.
Ouais.
Et du coup, bah pour ça, on joue Alice Garden. Donc Alice Garden, c'est un jeu qui est sorti en 2022, mais du coup, je l'ai découvert tout récemment, il y a quelques semaines. C'est un jeu de Ikwan Kwan qui a été édité chez Lifesteal Board Games. Et en fait, on incarne un jardinier de la Reine de Cœur, donc la fameuse reine d'Alice au Pays des Merveilles.
Ouais.
Je suis un peu dans le thème en fait. Hein. Il y a la Reine de Cœur dedans.
Ah oui, c'est vrai. C'est bon, ça marche.
C'est bon, c'est validé.
On va voir pour les suivants.
C'est pas gagné. Et on va devoir créer le plus beau jardin possible pour satisfaire ses envies, du coup, avec forcément quelques contraintes. On est sur un jeu de pose de Polyomino, et en fait, c'est ces tuiles qu'on va placer sur notre jardin. Donc pour ça, chaque joueur va avoir devant lui un plateau personnel qui va représenter le jardin, et on aura des petits pochons au centre de la table qui contiennent tous des formes de Polyomino différents.
D'accord.
Donc en fait, à chaque tour, un joueur va choisir un des 5 pochons, il va placer au centre de la table un certain nombre de tuiles en fonction du nombre de joueurs. Et en fait, tour à tour, on va aller choisir une tuile et l'installer sur notre propre plateau. Donc ces Polyomino, ils vont avoir plusieurs motifs différents qui correspondent totalement à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles.
Hein. Ouais.
Et en fait, le twist principal du jeu, c'est que chaque symbole aura sa façon bien à lui de scorer. Donc pour donner quelques exemples, tu as les champignons, tu marqueras 8 points s'il y en a 2 dans une colonne.
D'accord.
Les pièces d'échecs, si elles sont placées sur les cases d'échiquier, il y aura 5 points chacune. Les roses, plus tu mets de roses adjacentes, plus elles vont te faire 2 points parce que ça va former un beau bouquet de roses, et ainsi de suite. Donc voilà, chacune a son propre fonctionnement. Et en fait, on est vraiment dans un puzzle game à essayer de placer du mieux possible nos tuiles pour faire le meilleur score possible. On va aussi pouvoir récupérer des tuiles bonus. C'est des petites tuiles d'une seule case. Donc elles sont idéales pour combler des trous qu'on aurait laissés dans le jardin. Grâce aux gardes, parce que du coup, il y a des gardes dans les tuiles aussi qui apparaissent. Et eux, ils serviront qu'à ça. Ils marqueront aucun point en plus. Mais ils seront bien utiles parce qu'en fait, à la fin de la partie, les espaces vides et les tuiles non placées font perdre 5 points chacun. Donc ça rapidement faire mal. Donc c'est vrai qu'on essaye de combler un peu comme on peut. Donc on est... Enfin voilà, je préviens tout de suite, hein, on n'est pas sur la révolution des jeux de Polyomino, mais honnêtement, t'as le côté casse-tête, entre le côté casse-tête, l'univers et le matos, on est vraiment sur quelque chose d'hyper agréable à jouer. T'as des règles vraiment accessibles, ça sera jouable en famille sans aucun problème. Et puis on se prend vraiment au jeu de créer notre joli jardin coloré pour satisfaire notre chère reine de cœur. Donc c'est vrai qu'au final, on a un jeu qui est bien plus stratégique qu'on ne le pense, parce qu'en fait, on va quand même devoir choisir la forme qu'on va imposer à tout le monde pendant le tour en cours, tout en essayant d'optimiser quand même notre propre plateau du mieux possible. Et en fait, voilà, les mécaniques, elles sont hyper efficaces, et t'as la subtilité de choisir ces tuiles qui m'a fait penser à Art Society. Du coup, tu choisis aussi les tuiles que tu mets pour les autres joueurs, enfin aux enchères, que tu places pour les enchères. Mais voilà, je pense que c'est un jeu qui a pas connu le succès.
Je le connais pas.
Il est un peu passé sous les radars celui-là quand il est sorti. J'en avais vite entendu parler parce que c'est le thème d'Alice, mais c'est vrai qu'il a pas fait autant de buzz qu'il aurait pu en faire. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de jeux avec genre de mécanique de Polyomino qui ont un thème hyper abstrait, là en fait tu te dis il y a un thème d'Alice qui est bien imprégné ça peut plaire à beaucoup de monde, c'est vraiment un plus au jeu. Et je dis pas ça parce que je suis accro à Disney, hein, si jamais. Mais vraiment, enfin, ça a été une agréable surprise et j'ai envie d'y retourner, donc c'était une belle surprise.
Il est sorti donc en 2022, c'était chez qui ça ?
Chez Lifesteal.
Ah oui, d'accord, ok.
Ouais. Et il est vraiment, enfin, j'en ai vite fait entendu parler, mais c'est vrai qu'il est passé complètement sous les radars.
Ah bah ouais, complètement, effectivement. Autre jeu pour deux joueurs.
Et ben notre jeu, on va continuer sûrement avec un des plus grands classiques des jeux à deux pour moi. C'est Lost Cities.
Ah oui.
Donc Lost Cities, c'est un jeu de Rainer Knizia qui est illustré par Vincent Dutré. C'est sorti chez Yellow en 2018, mais à la base, le jeu, il date de 99.
Ah oui,
donc
quand même.
C'est loin d'être tout récent, voilà.
99. On est...
Ouais, c'est pas tout récent, puis il y a eu plein d'éditions depuis, hein, donc c'est Yellow qui a récupéré à la fin l'édition finale, mais il y en a eu plusieurs. On est sur un jeu du coup spécial de joueurs, et en fait on va devoir partir explorer les différentes régions, donc il y a l'Himalaya, la forêt vierge, le désert, le volcan, et on va même partir sous la mer. Sauf qu'en fait, notre petit explorateur, il pourra pas faire toutes les expéditions, donc faudra parfois faire des choix. En fait, le but principal du jeu, c'est de placer des cartes numérotées sur les différentes expéditions en fonction de leur couleur. Et on se retrouve à faire une sorte de pari, mais qui sera pas toujours gagnant. Parce qu'en fait, en début de partie, on va avoir plusieurs cartes dans les mains. Et le tour de jeu, il est très simple. On choisit une carte de notre main et on doit la poser soit de notre côté sur une des expéditions, soit on la défausse au centre de la table selon sa couleur. Et après, on va repiocher une carte qu'on pourra reprendre soit dans la pioche directement face cachée, soit en récupérant une qui est au centre de la table. Donc du coup, les cartes qu'on défausse, elles deviennent accessibles pour les autres joueurs, enfin pour l'autre joueur ou même pour nous si on veut y retourner, on veut retourner la récupérer. Et on a aussi des cartes paris, donc il y en a trois par couleur, et en fait elles nous permettent d'augmenter nos points, puisque ce sont des multiplicateurs, mais par contre si on est en négatif sur une expédition, ce sera aussi un multiplicateur négatif. Donc c'est le genre de carte qu'il faudra qu'on pose si vraiment on est sûr de réaliser une bonne expédition. Et là où il faudra être aussi prudent, c'est qu'à chaque fois qu'on pose la première carte d'une expédition et donc qu'on ouvre l'expédition, elle nous coûte 20 points automatiquement. Donc comme les cartes paris en fait qu'on va poser dessus, et ensuite chaque carte qu'on devra poser, elle devra être forcément en ordre croissant. Donc si on a posé un 3 sur la zone rouge, on sait qu'on pourra jamais poser le 2 cette couleur c'est passé. Donc c'est généralement là que ça devient tactique, parce que quand on voit l'adversaire qui ouvre une couleur d'expédition et que nous on a les petites cartes en main, on va faire en sorte qu'il pose ses cartes avant de pouvoir les défausser, parce que sinon il va les récupérer et les placer, et ça va vraiment lui faire des points. Donc petit à petit on va avoir toutes les expéditions qui vont se créer, le jeu il va devenir encore plus tactique, parce qu'on va éviter de laisser trop facilement à l'autre joueur des cartes qui lui feraient des points. Et lorsqu'il n'y a plus de cartes dans la pioche, c'est la fin de la manche, parce que ça se joue en 3 manches du coup. Et les joueurs vont compter leurs points en additionnant la valeur des cartes qu'ils auront mis sur chaque expédition, en multipliant si besoin et en pensant à retirer les points d'ouverture de l'expédition et des paris s'il y en a. En fait, Lost Cities, c'est un vrai jeu de prise de risque, parce que tu sais jamais réellement en début de partie quelles sont les expéditions que tu vas réussir à faire. Sur certaines, on pensera être vraiment à l'aise pour pouvoir y aller tranquille, poser plein de cartes dessus, mais en fait, l'adversaire, il a aussi des cartes de cette couleur. Il va pas les lâcher aussi facilement que ça. Et t'as tout le dosage parfait. T'as vraiment de l'audace, de la tension, de la prise de risque, d'attendre le bon moment pour dévoiler une expédition, parce que tu veux quand même essayer de récupérer plus de cartes de cette couleur. Mais en même temps, t'essayes de bloquer l'autre joueur sur certaines couleurs. Donc voilà, ça se joue vite. Les règles, elles sont simples. Il y a toujours l'envie d'y retourner. Enfin, moi, j'ai toujours eu l'envie d'y retourner. Et le seul petit défaut pour moi, c'est le calcul de score qui est un peu fastidieux quand on découvre le jeu. Mais je crois qu'ils ont fait une application d'aide au scoring qui a été faite exprès. Ouais, mais c'est vrai qu'honnêtement, pour un jeu qui a plus de 25 ans, c'est quand même une référence. Jeux à deux, c'est une vraie référence pour moi.
Ouais, mais tu vois, j'ai un message, je reçois des messages là pendant l'émission, on me dit 99, j'étais pas né. Tout le monde n'est pas jeune, que veux-tu.
C'est ça.
C'est fou ça.
J'étais né, mais j'étais pas encore dans les jeux.
Oui, c'est pas la peine de le dire non plus. Alors, tu as fait un autre jeu, Morgane.
Alors, attends, faut que je trouve un thème qui fasse que ça rentre dans la Saint-Valentin.
On
peut préparer le dessert pour le repas romantique de ce soir.
Ah oui, très bien.
Voilà, c'est pas mal, hein.
Ouais, c'est pas mal.
Et du coup, on va terminer la session avec Free Cup. Donc, c'est un jeu de Luca Bellini, Luca Borsa et Stefano Negro. Ça a été illustré par Sara Gloria et c'est sorti chez Atalia en septembre l'année dernière.
Oui.
Donc, je te fais passer d'un jeu de 99 à un jeu de 2024.
Ouais.
Comme ça, en un rien de temps, c'est magique. Et dans Free Cup, du coup, on va devoir préparer des salades de fruits. Selon les exigences du roi, parce qu'il a des goûts bien particuliers et qu'il refuse de manger tous les fruits. Donc pour ça, on va tous avoir un gobelet avec une cuillère et une dizaine de morceaux de fruits à l'intérieur.
Mmh.
Et à chaque tour, en fait, un joueur va révéler une carte recette et en fait avec leur cuillère, et tous les joueurs devront retirer les fruits que le roi ne veut pas manger, donc il veut pas avoir dans son gobelet. Donc sur le papier, ça paraît très simple.
Oui.
Mais en vrai, on rentre dans un casse-tête quand on commence à jouer à ce jeu, parce que les cartes, elles vont pas t'indiquer clairement ce que tu dois laisser ou pas, sinon ce sera trop simple. À la place, elles vont te dire que le roi, par exemple, il veut 2 fruits jaunes, mais il veut pas telle forme, qu'il veut au total avoir 5 fruits, mais qu'il veut pas se indiquer. Enfin, en fait, il te des petites énigmes dessus, quoi, qui te font comprendre ce qu'il doit y avoir dans le gobelet. Et en fait, on se retourne le cerveau à essayer de réaliser la recette parfaite. Et en fait, quand un joueur finit sa salade de fruits, il va poser son gobelet. Donc, au centre de la table, on a des tuiles animaux. Donc, lui, il va poser son gobelet sur la première tuile qui sera libre. Donc, généralement, c'est le roi singe, la première. Et les autres joueurs, dès qu'ils auront fini, ils vont aussi aller sur les disques centraux qui sont juste après. Et le dernier joueur, lui, il n'aura même pas besoin de finir la recette. Il placera automatiquement son gobelet sur la dernière tuile. Et ensuite, on va passer à la vérification des salades de fruits. Mais là, il faudra faire attention, puisque la moindre erreur, elle nous fait repartir à l'autre bout de la piste.
Ah oui.
Donc derrière le dernier joueur, en fait. Donc,
d'accord.
En fait, lui, on vérifiera pas son truc, mais il peut se retrouver premier en un rien de temps. Quoi.
Ah oui, c'est d'accord.
Donc quoi qu'il en soit, lui, il est sauvé. Et en fait, on va continuer à tout vérifier. Et à la fin des vérifications, chaque joueur va aller retirer sur son plateau de score. On a un petit plateau de score devant nous avec des jetons. Et en fait, on va retirer le jeton qui est à l'emplacement, qui est indiqué par la tuile animale où on a fini notre tour. Donc on a 9 jetons score à retirer de notre plateau et la partie va s'arrêter dès qu'un joueur aura retiré son jeton de valeur 0. Mais c'est pas parce qu'on met fin à la partie qu'on aura forcément gagné, puisqu'au final c'est la valeur des jetons qui sera importante. Donc c'est vrai que si moi à mon tour je retire la 8 et que toi t'as retiré ta 9, on aura déjà un petit écart qui va se jouer et moi il faudra que je tente d'aller rattraper les points qui vont me manquer, quoi.
D'accord.
Donc ce jeu, on l'avait essayé à Vichy, et en fait j'avais trouvé ça hyper malin pour jouer en famille, même avec les plus jeunes, parce qu'il est accessible dès 6 ans, donc on peut vraiment y jouer tôt, mais honnêtement, même en tant qu'adulte, on y a joué la semaine dernière à 4 adultes.
Ah oui, vous avez joué entre adultes à ça?
Ah oui, mais parce qu'à Vichy, on a senti que ça passerait pour des adultes.
D'accord.
C'était vraiment hyper agréable. T'as 2 niveaux de difficulté, bon, t'as des cartes recettes qui sont plus ou moins difficiles à réaliser.
Ouais.
Et en fait, t'as un mélange, la réflexion, l'observation et la rapidité qui sont là. Et en plus, t'as la dextérité parce que tu galères quand même avec ta cuillère à enlever les fruits. C'est des pièces en bois, en fait, qui sont dedans. Et le matériel, il est hyper agréable à manipuler, c'est coloré. Enfin, franchement, ça attire. Et franchement, quand on y a joué la semaine dernière, on s'est même surpris parce qu'on n'y arrivait pas. Les premiers tours, c'était hyper compliqué. Ouais, non, les cartes, elles te font vraiment bien cogiter. Tu sais que tu dois le faire vite, en plus.
Ouais.
Donc, tu essayes de faire comme tu peux et puis t'arrives. Tu regardes les gobelets des autres et t'es là, moi j'ai pas mis ça dans le mien. Donc, et en fait, c'est impressionnant de voir le cerveau qui peut bloquer autant sur un jeu qui est accessible dès 6 ans. Et vraiment, on a passé un super bon moment et même entre adultes, quoi.
J'ai envie de te dire, il est aussi peut-être passé un petit peu inaperçu celui-là, non?
Il est un petit peu passé inaperçu, ouais, j'ai l'impression, ouais. C'est, pourtant, à Vichy, il a bien fait parler de lui.
Ouais.
Mais c'est vrai que depuis la sortie, ça a été un peu.
Il n'y a pas eu de. Ouais. Bon, mais ça arrive malheureusement, il y a tellement de sorties, j'ai envie de te dire.
Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est des jeux dans la lignée d'un docteur Eureka,
c'est
faire les potions.
Mais
franchement, j'ai bien plus de difficultés sur celui-là que sur un docteur Eureka.
Ah ouais.
Parce qu'il te donne pas la réponse exacte, c'est vraiment à toi de la déduire, quoi. Donc, très très bien fait.
Bon, parfait, merci beaucoup Morgane. Tiens, alors ce soir, je dis ce soir, pour ceux qui écoutent en direct, parce que ça va être diffusé lundi en podcast, donc la Saint-Valentin, tout le monde n'aura plus rien à foutre. Donc du coup, c'est pas grave. Donc comme on est en direct, ce soir, qu'est-ce que tu as prévu pour la Saint-Valentin?
Ce soir, c'est soirée-jeu.
Oui.
C'est pas Saint-Valentin, c'est soirée-jeu à la ludothèque.
Ah, c'est pas soirée-jeu de joueurs.
Non, c'est pas soirée jeu de joueurs, mais si je devais choisir des jeux pour deux ce soir, ce serait Azul Duel.
Bah oui.
Que j'ai adoré.
Bah oui, forcément. Mais il va falloir arrêter de. Parce que moi, c'est pareil. J'ai présenté hier Azul Duel. On m'a dit, Matt, t'es bien gentil, mais il n'est pas sorti le jeu.
Il arrive bientôt.
Le 21 février. Le 21 février.
Ça va dans une semaine.
Oui, ça va dans une semaine. Mais ceux qui avaient prévu d'y jouer ce soir pour la Saint-Valentin,
raté.
C'est loupé. Ah, donc,
mais après, il y a un Bomb Buster à deux joueurs, c'est très bien aussi.
Exactement, et Bomb Buster en plus, il y a une. Fais bien de parler. Ils ont fait une carte spéciale pour la Saint-Valentin. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Cocktail Games ou sur leur réseau. Ils ont indiqué tout pour télécharger la carte spéciale Saint-Valentin pour Bomb Buster.
Spéciale, ouais.
Mission spéciale pour la Saint-Valentin. Bon,
et puis sinon, une bonne partie d'enquête, un jeu d'enquête.
Ouais.
Ça, c'est bien aussi, ouais.
Un petit duel pour la Terre du Milieu aussi.
Ah, aussi, ouais. Ouais, mais ça peut mal finir quand même.
C'est vrai. C'est vrai que ça peut mal finir.
C'est un petit bon affrontement, hein, dans celui-là.
C'est vrai que ça peut mal finir. Effectivement. Bon, eh ben, merci beaucoup, Morgane. Bonne soirée à la ludothèque. Y a des jeux déjà prévus
Oui, il y aura du Cascadia Rolling. Ouais. Il y aura The Same Game aussi que j'ai en barque.
Ouais.
J'ai pris Rage of the Gange aussi, le card.
D'accord.
Cards and Karma, là, le dernier.
Ouais.
Il y a le Free Cup, je crois, qui revient.
Ah, d'accord.
Et, et Stay Cool, dont on va parler, je pense, la semaine prochaine.
Stay Cool. Oh oui, vieux jeu, ça.
Enfin, ouais,
vieux jeu. Vieux jeu. 2019, je crois. Enfin, bon, vous n'êtes pas non plus. Mais bon, maintenant on dit que c'est un vieux jeu au bout de 3 mois. Donc,
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Morgane, et très bon week-end.
Merci, toi aussi, bon week-end.
Salut.
Salut.